Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où?
Ça marche ou pas?
Ouais. Radio Balade.
Ouais. J'entends rien, moi.
101.
Moi, j'entends. Ouais.
J'ai pas de retour, moi.
C'est tout le monde sur la. Là. Je pense.
Passe. Ouais.
Salut à tous.
Mais c'est gratuit.
Vous m'entendez là?
Non, moi j'entends rien, je vous entends pas moi.
Oui, c'est gratuit, voilà.
Et salut à tous.
C'est gratuit.
Est-ce qu'on est bon là?
Ouais.
Bon,
ouais, ouais.
C'est
on est parti hein.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Balade. Voilà, rentrée c'est gratuit avec Fred et Benjamin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'émission. On va débroussailler un sujet. Voilà, on va parler de transhumanisme, d'anarchisme. On va partir de là. Benjamin, tu veux dire quelque chose?
Oula, j'ai plein de trucs à dire. Alors du coup, je me retiens un peu parce que sinon.
Ouais, ouais. Bon. Alors, l'émission, toujours un peu sur les questions de la liberté, finalement, hein, la gratuité. Y a le transhumanisme, c'est un mot qui on va dire...
Qui fait peur.
Qui fait peur, ouais, voilà, ouais, donc on va parler de ces choses-là, débroussailler le sujet. Donc, alors, c'est parti pour moi d'une recherche sur l'anarchisme aujourd'hui en fait. J'ai découvert qu'il y avait 36 sortes d'anarchisme, anarchisme féminin, anarchisme de toutes sortes. Tu en connais toi, Benjamin?
Ouais, il y en a un paquet, on peut dire, alors avec des mouvements qui ont une résonance et une taille. Qui sont plus ou moins étoffés aussi au niveau théorique, mais il y a effectivement, on va dire, je pense que c'est quand même lié à l'arrivée d'Internet, il y a eu vraiment une explosion des mouvements qui se revendiquent de l'anarchisme. Voilà.
Ouais, et donc il y a entre autres un anarchisme transhumaniste, qu'est-ce que ça veut dire transhumanisme, comment ce mot fait peur déjà, pourquoi Donc il y a la question de la technique hein, qu'on va aborder surtout. Mmh. Technique et puis après...
Il y a deux mots qui peuvent faire peur en plus. D'une part l'anarchiste qui continue quand même
ouais.
À susciter...
La question de l'État quoi, de son utilité, de sa domination on va dire, qui est une entrave à la liberté individuelle on va dire.
Ouais, je pense que tu... Ça définit bien le truc.
Et après, le transhumanisme, l'anarchisme, mais c'est un mot qui est quand même, assez connu, qui a une histoire plus ancienne que le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est apparu, on va dire, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, je dirais. Donc, c'est...
Quand peut-être même un peu avant, ce que j'avais pu regarder un peu.
Il y a de la littérature, il y a toute la littérature de science-fiction.
Aussi qui a...
Qui peut démarrer à partir de, je sais pas, de Jules Verne ou
oui.
D'autres.
Ouais,
beaucoup d'auteurs anglo-saxons, hein, la science-fiction, elle a été... c'est un genre...
Déjà, il y a une transformation de l'imaginaire... avec la question des sciences et des techniques qui opèrent assez... Mais bon, on va dire que ça commence vraiment à structurer, effectivement, après la Seconde Guerre mondiale.
Bon, donc, quelles sont les réactions quasi automatiques au mot transhumaniste? J'ai trouvé quelques réponses sur un site pour un transhumanisme marxiste. L'international sera le genre humain. Donc c'est assez rigolo. Tu vois l'image du site, tu vois l'évolution en partant du chimpanzé, là, le truc classique, le chimpanzé qui se redresse et qui se transforme en l'homme actuel, quoi, ou la femme actuelle. Et là, à la fin du clip, c'est un robot, en fait, qui marche en portant un drapeau rouge.
ouais. Bon. Alors, juste une anecdote, mais c'est que j'ai déjà lu des livres de science-fiction qui reprennent cette idée-là, hein, de technique voilà, qui veut s'insérer dans le communisme. Alors je crois qu'il y en a un qui est assez connu. Ah, j'ai oublié le nom là, mais. Enfin, c'est un thème qui revient dans la science-fiction.
Ouais. Alors dans la réalité. Alors bon, je finis mon. J'ai parlé des réactions types, les réponses donc j'ai trouvées sur ce site. Donc il ne faut pas se prendre pour Dieu ou il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers, quoi. La technique fait peur. Le cliché du savant fou de Frankenstein, quoi. Si la nature est faite de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. Alors, donc un argument d'autorité qui est incroyablement résistant et qui ne tient plus depuis longtemps, en fait. Hein. Par exemple, en cas d'appendicite, on retire un organe tout à fait naturel. Et on s'en porte a priori mieux. C'est un contre-exemple. Hein. Et voilà, dernier des trois arguments, des trois réactions. On s'ennuierait si on était immortel. Donc ne serait-ce pas une phrase pour se rassurer et accepter son sort.
Oui, pas faux. Juste un point de détail, mais donc c'est le bouquin, un des livres donc, qui réfléchit à la... question du marxisme poussé à l'extrême, enfin marxiste je sais pas, mais en tout cas bon disons des régimes communistes. Donc c'est Nous autres de Yevgeny Zamyatin, voilà. Donc où il imagine une dystopie où le communisme a atteint un tel niveau de extrême et notamment en se basant sur un contrôle de avec la technique, hein, comme dans 1984.
Bienvenue à Gattaca, c'est pas un film.
Voilà aussi, ouais.
Un peu inspiré de ça, ouais.
Probablement. Bah ouais, ça a été un des premiers Yevgeny Zamyatin avant 1984 d'ailleurs, il me semble, à défricher un peu toute cette idée d'État technocratique totalitaire.
Ouais. Bon, en fait, dans la réalité, disons, c'est un mouvement, on va dire, foisonnant, multifacette. Il y a des gens qui ont essayé de dresser une carte en 3D, on va dire, des différentes approches.
On aurait pensé à du 4D, quand même, pour nous.
Ouais, on pourrait 4D, ouais, carrément, ouais.
Au moins.
On pourrait faire un dessin animé. Bon... Ouais, écoutez, on va parler maintenant de faire une pause, non? Je sais pas, quelle heure il est?
Ouais, on peut attaquer par un premier morceau, hein, comme ça on va... Donc, bah aujourd'hui, la particularité sur cette émission, c'est qu'on va écouter le même DJ. Allez, c'est parti!
Yo.
Et voilà, les robots sont de retour. Donc c'était DJ Davidson, téléchargé sur la plateforme Jamendo. Donc le tout étant en licence de libre diffusion. Alors donc aujourd'hui sur Entrée sans payer, on parle de transhumanisme. Mais qu'est-ce que c'est d'abord et d'anarchisme. Donc on fait le lien entre les deux, mais qu'est-ce qui va connecter les deux, Fred? D'abord, moi je me, bon, je sais un peu, mais qu'est-ce que pour toi, comment tu définis le truc, le transhumanisme?
Eh ben alors, on pourrait par exemple le définir à part ce qui est, on va dire, le terme opposé à transhumanisme, ça serait le bioconservatisme, quoi.
Oui.
Voilà. Donc alors le bioconservatisme. C'est tout, ça rassemble tous les gens, on va dire, qui ont peur du transhumanisme, qui projettent leurs fantasmes de complot, etc., d'angoisse existentielle, hein, propre à chacun, mais qui peuvent se rassembler, qui vont, par exemple, la plupart des églises, on va dire, des mouvements religieux sont bioconservatistes, on va dire, mais il y a des exceptions, par exemple. Il y a un courant transhumaniste chrétien, donc avec un site internet christiantranshumanisme.org. Le christianisme est un transhumanisme, donc en fait c'est surtout en fait des courants de pensée. Le transhumanisme est un courant de pensée, comme le communisme est un courant de pensée qui dévie du marxisme. Il y a un pôle. Alors, comment le transhumanisme est permis par la technique? On va dire, bon, alors, il faudrait. Alors, tu connais Jacques Ellul, par exemple. Donc, comment tu le verrais, lui, s'il était encore vivant?
Sa position par rapport au transhumanisme?
Ouais.
Je pense déjà que ces problématiques là sont quand même, on va dire, il les avait déjà plus ou moins anticipées à la période où il a commencé à écrire. Bon, c'était des thèmes qui étaient déjà un peu mis sur le tapis, quoi, qui commençait à envahir le champ de la pensée européenne. Et à mon avis, je pense évidemment que Jacques Ellul avait une position plutôt anti-technique, hein, donc a priori il n'aurait pas été favorable à...
Serait dans le camp
bioconservateur. Ouais, on peut dire ça, hein. Je pense que de toute façon chez Ellul il y a une certaine forme de conservatisme, hein, presque on pourrait appeler ça un traditionnalisme, un passéisme.
J'ai lu donc l'ouvrage qui se trouve à la gratuiterie, là, Le bluff technologique, où qui est écrit dans les années 1980, là, où il parle du gadget, de tout l'impact que la technologie a sur la société, et qui est ignoré ou exploité par les États, par exemple, à des fins de profit finalement individuels, hein. C'est comme ça que ça se passe un peu partout sur la planète aujourd'hui. C'est ça le problème, en fait, un des problèmes fondamentaux. Donc le transhumanisme, c'est des think tanks, comme on dit en anglais. On en trouve développé sur Internet, grâce à Internet. Hein, donc Internet, c'est le... On va dire, c'est le cerveau de cette mutation qui est peut-être en cours. Alors, il s'agit d'utopie, de dystopie, c'est de la littérature, en fait. Hein, mais il y a des réalités et des gens qui, comme j'ai découvert, Jacques Fresco, décédé aussi, un Américain, qui avait un architecte, qui avait inventé et qui a écrit plusieurs ouvrages sur... un modèle, on va dire, de société future. Qu'est-ce que t'en dis, Benjamin?
Alors, moi, au début, ça m'a semblé J'étais un peu sceptique dans la mesure où ce qu'il propose, c'est quand même une forme de, on va dire, de gouvernement qui s'appuierait sur la technique.
Ouais.
Mais en même temps, je me dis, ça a l'avantage de plonger au cœur du débat, quoi. C'est-à-dire, il va vraiment, en quelque sorte, il prend la question au sérieux, la question. Savoir, toute cette littérature, alors plus ou moins utopiste, avec un, on imagine un ordinateur central qui gouverne des sociétés. Là, il se pose vraiment la question, en pratique, à la limite, qu'est-ce qu'on pourrait...
Qu'est-ce que ça donnerait, quoi?
Comment, par exemple, sur la... la distribution alimentaire, l'allocation des ressources en général dans une société, est-ce que ça pourrait pas présenter un intérêt? Donc au moins ça a le mérite de poser la question. Et ce que je trouve vraiment intéressant, et c'est c'est très américain, mais c'est qu'il va jusqu'au bout et arrête-moi si je me trompe, mais il a acheté donc un terrain et il essaie de créer une sorte de tout au moins pour l'instant
prototype, The Venus Project, qui est relayé aussi, il y a des Français qui s'intéressent sur ça, qui ont créé un think tank français, The Millennium Project ou quelque chose comme ça, donc qui bavarde là-dessus aussi. Jacques Fresco, donc, moi qu'est-ce que je pourrais en dire de personnel? Qu'est-ce que ça m'a apporté comme réflexion? C'est une histoire d'anticipation, la question de l'autonomie, voilà. Est-ce qu'on peut... comment va évoluer, on va dire, l'inconscient planétaire, quoi, si on peut se dire. Est-ce qu'il y a une espèce de... d'égrégore, là parallèle à Internet, par exemple. Je pense aux gens qui... aux innombrables, on va dire, qui sont dans des sociétés comme les aborigènes ou les Amish, qui, eux, sont, on va dire, imperméables à la technologie, encore peut-être à nos jours, si l'homme n'a pas... l'humanité n'a pas encore tout... l'humanité, on va dire... technologique, le système planétaire.
Et puis il y a
des exemples comme ça de développement, de tentatives de développement, par exemple en Afrique à l'époque où on avait des gens avaient décidé, des technocrates décidaient de mettre des robinets, par exemple, dans un village. Les femmes les avaient cassées, quoi. Parce que elles préféraient aller chercher l'eau au puits pour pouvoir bavarder entre elles de leur potin, quoi. Supprimer le robinet, quoi, tu vois. Le peuple a réagi aussi quelque part. Alors avec un certain retard, quoi. On va voir comment. Ce retard là, il tend à se rétrécir un peu, à se compresser, il me semble. Enfin, dans l'histoire.
On peut dire ça. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours un rattrapage. Au bout d'un moment, la technique finit par rattraper. Même des sociétés. On voit les téléphones portables qui aujourd'hui se trimballent vraiment partout, même dans les. Enfin, dans les campagnes.
Il faut. Alors quels sont les risques? Il y a la question des risques, voilà. Parce que finalement, on voit bien que la technologie, en fait, telle qu'elle a été dirigée, on va dire, ce 20e siècle, quoi, les effets indésirables, ils sont majoritaires, quoi. Les guerres, l'arsenal nucléaire, des trucs potentiellement très dangereux qui sont là, tapis. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Comment les peuples vont prendre conscience de ça et réagir et, je dirais, casser les robinets, quoi.
Bon, ce n'est pas un appel à casser les robinets ou d'autres techniques, mais un peu.
Terroriste, non, je l'appelle, c'est pas un appel à la violence.
Non, non,
ça.
Pas du tout, non, non, c'est une réflexion. Mais oui, oui, ben, ouais, c'est vraiment une question qui aujourd'hui est complètement, complètement d'actualité, quoi.
Qu'en pensent les enfants? Les ouais. enfants ont soif. Enfants on va faire soif. Une pause.
Bon bah allez chercher l'eau là, vous venez pas me déranger. Toc toc toc, nous revoilà sur Radio Balade 101.8 pour l'émission Entrée sans payer. Donc aujourd'hui on aborde un thème bien particulier qui est d'une manière générale, on a envie de débroussailler un peu la question de la technique. Donc par exemple, la technique et la gratuité, il y a beaucoup de connexions possibles. La technique et la culture libre, clairement aussi. Et on a voulu aborder le thème à travers la question à travers la thématique du transhumanisme, qui alors si j'ai bien compris, le transhumanisme, c'est la technique appliquée à des modifications de l'être humain, quoi.
Voilà, ouais, on peut dire ça, ouais. Alors, il y a plusieurs... On a fait une petite définition, une petite histoire, là. Allez, c'est... Et en disant que le transhumanisme se déploie sur différents champs, alors qui ont des noms en isme, voilà, vous avez l'abolitionnisme par exemple, c'est un courant qui pense que l'on peut et doit abolir la souffrance et les mauvais instincts de l'évolution que l'évolution nous a légués.
D'accord.
Voilà, ouais, ouais. Donc là on pourrait se baser sur les travaux sur le cerveau, quoi, là, comment fonctionne le cerveau, est-ce que... comment l'être humain a muté, en fait, ça c'est déjà bien observé par des scientifiques, des éthologues, depuis déjà un siècle, hein, on va dire. Bon, ensuite, vous avez par exemple aussi l'extropianisme. Donc ça c'est un courant pionnier et divers dans ses réflexions, mais marqué par la pensée libertarienne. Extropie se veut un opposé de l'entropie. Donc, l'entropie, un concept de physique.
Augmentation du désordre.
L'augmentation du désordre, ouais. Les questions du temps aussi. En physique, bon, on va pas déployer ça ici, hein, mais bon, vous pouvez trouver des références sur Internet, c'est référencé sur Wikipédia. Il y a un Extropy Institute. Voilà, ensuite vous avez l'immortalisme, un courant qui se focalise sur les techniques permettant d'allonger la durée de vie, voire d'atteindre l'immortalité. Le post-genrisme, un courant qui prône le dépassement des genres par la modification volontaire des différences sexuelles. Le singularitarisme, courant qui pense qu'une singularité est plus ou moins proche dans l'histoire humaine. Dans le sens d'une accélération soudaine des découvertes technologiques, suite par exemple à la mise au point d'une intelligence artificielle capable de s'améliorer elle-même toujours plus vite. Alors là, bon, on en est encore loin à mon avis, mais oui. C'est inspirant, le singularitarisme. Donc l'histoire, ouais, c'est moi je vois un peu ça comme les effets temporels, quoi, de l'univers. Biologique, on va dire, les mutations, les rapports entre, on va dire, l'impact que peut avoir les technologies sur le substrat biologique de toute la planète, finalement, parce que tout est impacté, quoi, les plantes, les animaux, les êtres humains, du fait de ce qu'on connaît, quoi, qu'on parle de réchauffement climatique, de pollution, de tiers-monde, etc. Voilà.
Bah, d'une certaine manière, même, on pourrait dire qu'on est déjà dans le transhumanisme, hein, avec les progrès de la médecine. Alors, quand tu mouvement post-genrisme, toutes les modifications qui ont trait. Il y a déjà un paquet de choses qui existent déjà. Quoi,
donc, oui. Enfin, mon ouvrage de référence, c'est L'ouvrière et l'hétérosexuel, où il y a justement un chapitre, c'est l'intersexuel de la paresse, les enjeux de ce siècle sont bien résumés. Allez, pour finir, le techno-gaïanisme, un courant qui compte sur de nouvelles technologies pour régler les problèmes environnementaux. Et... archéofuturisme, un courant français transhumaniste d'extrême droite. Voilà, France.
D'accord, il y a vraiment tout.
On arrête la liste, quoi. Il y a un transhumanisme marxiste, donc, dont on parlait au début, là, dont je tire un peu tous les idées de cette émission.
Oui.
Voilà. Un site intéressant aussi que j'ai visité. Laissez faire, un Suisse, donc où ils abordent donc le terme laissez faire a été popularisé par les économistes du XVIIIe siècle, qui demandaient notamment la libre circulation des grains par opposition au mercantilisme et au protectionnisme du roi.
Oui.
Donc, vu l'ampleur du protectionnisme actuel, ce combat-là est encore loin d'être gagné. Hein, à la gratuiterie, on y participe.
D'une certaine manière. Bon, après, c'est pas la même chose qui est défendue, mais effectivement, il y a quand même cette idée qu'on a le droit d'échanger librement. Bon, là, c'est plus des échanges non conditionnels, quoi. C'est pas un même type d'échange, quoi. Mais,
ouais.
C'est pas des échanges marchands, quoi. Mais... Après, moi, tous ces mouvements m'interrogent quand même sur la question qui rejoint là la thématique, une thématique assez ancienne d'ailleurs, hein, puisque ça commence avec tout un courant qui a commencé dans les années 50, on va dire, notamment avec la cybernétique de Norbert Wiener, à prôner l'idée que l'information doit être libre et libre d'accès, libre, enfin que l'information ne doit pas être appropriée, quoi.
Ouais, ça c'est un sujet très actuel, ouais, avec l'internet.
Et ça me, et là bon, on rejoint aussi toute la problématique autour du matériel libre, à savoir par exemple c'est la question, là on n'est plus tant sur la question du déterminisme technique ou de savoir si une technique est bonne ou mauvaise en soi.
Ouais.
Si on va vers un progrès technique, deux thèses qui sont presque un peu unanimement partagées dans beaucoup de ces courants, on est beaucoup plus sur la question de savoir comment la technique va être appropriée, c'est-à-dire est-ce qu'on veut la question du copyright par exemple des techniques qui vont être utilisées, soit ça peut être pour la modification des modifications corporelles comme dans le transhumanisme, soit des techniques de redistribution alimentaire, enfin il y a tout un
qui dit copyright dit
dit que en fait donc si ces techniques sont j'ai envie de dire, par exemple, si on part sur l'idée qui est pas fausse, hein, que certaines techniques vont pouvoir nous diriger vers une société d'abondance, par exemple en proposant une production plus facile qui nécessite moins de main d'œuvre, hein,
ouais.
Concrètement, c'est
passer d'une société de surabondance, en fait, parce que c'est notre cas en Occident, à une société d'abondance simple, quoi, on va dire.
Voilà, c'est ça, ouais. Et donc il y a tout un courant, donc tout le courant de la culture libre est vraiment basé sur cette idée, à savoir, par exemple, notamment dans ce qu'on appelle la culture hacker, c'est-à-dire de dire on va développer des techniques qui sont relativement simples à s'approprier.
Ouais.
Donc là, on rejoint plus tout ce qui est low-tech, voilà.
Ouais.
Mais aussi des techniques qui sont juridiquement, légalement appropriables par tout un chacun, quoi. C'est pas parce que voilà, si on va vers une société où des techniques permettent davantage d'abondance, si ces techniques elles-mêmes sont propriétaires, si elles sont accaparées par que ça soit à la limite une élite technocratique ou des marchés ou voire même
des algorithmes
ou alors c'est auto mais on perd le contrôle sur la technique, et donc finalement l'abondance elle se retourne contre les usagers.
Faut pas tomber dans le panneau.
Voilà, et dans un sens, peut-être qu'au moins ça a tendance à mettre l'accent sur ces aspects-là qui me paraissent très importants, à savoir c'est pas tant de savoir si une technique est bonne ou mauvaise, hein, l'enjeu.
Ouais.
Mais peut-être de savoir comment elle va être appropriée, quoi, par la société, si on est sur une appropriation de type centralisé, marchande, probablement les effets de la technique ne seront pas les mêmes, quoi. On sera pas sur le même type
de régulation.
Voilà. Ouais. Donc je pense que ces aspects-là sont un peu fondamentaux quand on cherche à réfléchir sur la question de la gratuité, et plus généralement sur des questions politiques, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment couper à cette question, et surtout, est-ce que ça fait vraiment avancer le débat de tomber sur une, dans une vision, j'ai envie de dire, un peu manichéenne de la technique, quoi. Bon, parce que le grand débat, par exemple, en ce moment, c'est est-ce qu'on est pro ou anti-numérique ? Voilà, c'est un peu le... on va dire, on a tendance à observer un peu une sorte de clivage. Bon, pour aller vite, dans les mouvements écologistes, on serait contre le numérique.
Ouais.
Plus à gauche, c'est contre. Plus à droite, c'est pour, quoi.
Mais ouais, ça c'est faux. Ouais, ça c'est pas la réalité.
Ouais, en pratique, la question est peut-être pas là, quoi. Le numérique, bon, c'est une technologie. Qui peut dont les effets seront pas les mêmes en fonction de la manière dont ça va être approprié par les citoyens, quoi.
Bien, donc un exemple dans la tête. Qu'est-ce qu'un implant cochléaire?
Ouh là là.
Nous demandons à... j'ai pas la réponse à la question.
Si un auditeur le sait.
Ouais.
Il gagne un voyage à Esperanza. Non, c'est une blague. Hein.
Alors, bon, ouais, non, si j'ai trouvé la réponse, voilà.
C'est vrai.
Ouais.
Bon.
L'humanité a déjà commencé à se transformer. Mise en place de prothèses, d'implants cochléaires pour redonner l'audition à certaines. Je savais pas que c'est. Mais bon, il y a les implants dentaires,
tout
ça
simplement,
existe
quoi.
Aussi.
Ouais.
Il y a plein d'exemples qui existent, quoi. Hein, ouais.
Donc, ouais.
Alors, ouais, moi je suis pour. Hein.
Oui, bon, après,
si, ça peut régler, disons, des problèmes de handicap, voilà, ou de dégénérescence naturelle, voilà, à partir du moment où c'est accessible, comme ça pourrait l'être.
Et à partir du moment aussi où l'individu garde le contrôle, quand même.
Ouais. Et à partir du moment où l'individu... Ouais, comment il pourrait perdre le contrôle, par exemple
Par exemple, avec des puces numériques ou des choses implantées sous la peau.
Ah bah ouais, il y a des gens, ils sont prêts à faire ça. Hein. Après, voilà, c'est... il faut...
Alors là, est-ce qu'on a...
Je sais pas. Alors, on a... L'humanité est divisée, de toute façon... Hein. Pas
c'est sûr.
Espérer que il va y avoir une unification, je sais pas, dans le singularitarisme là, on verra bien. L'histoire le dira. Il reste 5 minutes. On va faire une petite pause ou comment on fait? Allez, on met un petit morceau et
allez,
puis on se retrouve.
Un dernier morceau. Ouais, allez, c'est parti. Go.
We'll be right back.
C'est reparti pour l'émission Entrée sans payer. Donc on écoutait DJ Davidson, qu'on a écouté pendant donc toute cette émission. Téléchargé sur la plateforme Jamendo, donc c'est la musique sous licence de libre diffusion, donc vous pouvez la rediffuser, la modifier, voilà. Donc aujourd'hui on parle de la question de la technique au sens large et abordée à travers la question du transhumanisme. Et on avait donc aussi à travers la question de l'anarchisme. Alors pourquoi ? Parce que la question de la technique est souvent reliée à celle de l'État, quoi.
Hein, ouais.
De la centralisation.
La liberté.
Ouais. Voilà, ouais. Et pour illustrer ça, j'ai. Donc je vous conseille un super livre dont on va parler maintenant. Ça s'appelle Les Dépossédés. De l'autrice ou l'auteur avec un E, Ursula Le Guin. Alors Ursula Le Guin, c'est une auteure qui appartient à la nouvelle vague de la science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction qui a émergé dans les années 60-70 et qui, on va dire, succède à l'âge d'or de la science-fiction des années 50. Donc c'est une science-fiction qui a la particularité d'être vraiment focalisée sur des questions relatives à, par exemple, des questions de société qui animaient les années 70. Un instant. Et voilà, excusez-moi. Ursula Le Guin, elle baigne dans ce mouvement-là. Alors c'est, j'ai envie de dire, c'est de la science-fiction un peu un télo, bon, si on... pour aller, ouais. Où elle va poser des questions, notamment, elle aborde souvent des thèmes autour de la rencontre entre des civilisations différentes, notamment des civilisations premières. Des choses comme des thèmes qui étaient vraiment importants dans les années 70, notamment le féminisme, qui est un thème qui revient, alors même si elle s'en défend et on la classe pas nécessairement dans cette catégorie, mais des choses comme l'anarchisme, le féminisme, voilà. Et donc dans ce livre, les Dépossédés, donc qui est écrit en 1974, elle va opposer une utopie c'est vraiment intéressant parce que en fait la trame du récit, c'est donc un physicien qui va faire une découverte en physique. Alors c'est dans un contexte de science-fiction, hein, qui va faire une découverte donc qui va permettre la transmission d'informations dans l'univers de façon instantanée. Et donc on va suivre le parcours de ce physicien, ses doutes, tous ses questionnements, un peu ses vertiges existentiels, on va dire, hein, tout au long du livre. Et donc on va le suivre en sachant que lui appartient à une planète où au satellite. Qui s'appelle Anarès, d'une planète qui s'appelle Uras. Voilà. Donc, intéressant, donc, c'est le fait que la planète principale soit Uras, qui est donc une planète sur laquelle vit un capitalisme technocratique, pour le coup, sans foi ni loi, un peu, enfin, très hiérarchisé, non, au contraire, à la limite, avec beaucoup de lois, mais un capitalisme, ouais, qu'on appellerait sauvage dans certains. Selon un certain point de vue, quoi.
Le reflet de ce qu'on vit actuellement.
Voilà, ouais. Avec une hiérarchie très forte. Et donc, dans le cadre d'une collaboration scientifique, lui qui habite sur cette planète où l'anarchie et l'anarchisme est un état de fait, va devoir collaborer à se rendre d'une planète sur l'autre. Voilà, donc tout le livre est découpé comme ça, entre un chapitre qui va se passer sur une planète et l'autre chapitre qui va se passer donc sur le satellite. Enfin voilà, pour raccourcir, je dis planète. Ouais. Et c'est vraiment donc c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la question de l'anarchisme, de sa faisabilité est abordée non pas, j'ai envie de dire, d'un point de vue extérieur, mais pour une fois, on pourrait dire du point de vue de quelqu'un qui vit dans une société de ce type-là et qui a une réflexion presque un peu critique même hein, sur les limites du système dans lequel il vit. Et donc qui par contre va se retrouver dans la planète capitaliste hein, avec là pour le coup un regard étranger, un regard des choses qu'il comprend pas quoi.
Ouais.
Et donc ça met vraiment ça crée vraiment un point de vue qui est assez étonnant quoi. Et qui bon Ursula Le Guin écrit de manière remarquable, donc vraiment on se plonge dans la peau du on a l'impression d'y être quoi.
Ouais, tu aurais un extrait
Alors sur quoi on pourrait
pour donner une idée un peu du style
ouais voilà, ouais bien sûr,
une page qui nous mette dans le bain de cet auteur là. Moi je vais l'emprunter hein, c'est sûr.
Alors ouais, quand je parle de l'étrangeté, donc voilà un moment donné, donc Chevec, le physicien qui va faire cette découverte extraordinaire.
Ouais.
Donc là, il se rend sur la planète Duras, et voilà ce qui, à un moment donné, ce qu'il pense. Le plus étrange à propos de cette rue cauchemardesque était qu'aucune des millions de choses qui y étaient à vendre n'étaient fabriquées là. Elles y étaient seulement vendues. Où se trouvaient les ateliers, les usines, où étaient les fermiers, les artisans, les mineurs, les tisserands? Les chimistes, les sculpteurs, les teinturiers, les dessinateurs, les machinistes, où étaient les mains, les gens qui créaient? Hors de vue, ailleurs, derrière les murs. Tous les gens, dans toutes les boutiques, étaient soit des acheteurs, soit des vendeurs. Ils n'avaient d'autre relation avec les choses que celle de la possession. Donc voilà, alors c'est...
Voilà, c'est le fétichisme de la marchandise.
Oui, tout à fait. Et aussi le fait d'être dépossédé. Hein,
d'une partie du processus, on va dire.
Voilà, tout à fait.
Du vrai spectacle, peut-être, je sais pas. Ouais, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Ouais. De ce qu'on vit aujourd'hui. Quoi. Ça, c'est.
Alors,
c'est manifeste, ouais.
Sur la question de la possession, donc sur la planète Anarès. Alors ce qui est intéressant, c'est que Ursula Le Guin n'écrit pas une dystopie. Alors une dystopie, c'est le contraire de l'utopie.
Ouais.
Là elle écrit vraiment une utopie, dans le sens où sur cette planète les choses fonctionnent quoi, hein.
C'est, ouais, ouais.
Donc vraiment elle plonge, elle imagine, elle va jusqu'au cœur des différents mécanismes par lesquels une société peut vivre dans l'anarchisme.
Alors vas-y, raconte-nous un passage sur la planète anarchiste.
Par exemple, alors avec ses contraintes aussi, parce que là,
ouais, bien sûr,
de
ouais.
dépossession notamment. Donc là, la première scène sur Anarès se passe avec un enfant donc dans une maternité. Et voilà un passage que je trouve intéressant. La surveillante entra aussitôt. Elle redressa le gros. Chef, tu ne dois pas pousser les autres. L'enfant maigre se leva. Son visage brillait de lumière et de colère. Ses langes étaient sur le point de tomber. « À moi !» dit-il d'une voix aiguë et retentissante. « Mon soleil !»« Il n'est pas à toi !» déclara la femme borgne avec la douceur d'une profonde certitude. « Rien n'est à toi. C'est pour utiliser, pour partager. Si tu ne partages pas, tu ne peux pas utiliser. » Voilà. Donc ouais. Déjà, ça pose vraiment la question...
Du conditionnement...
Oui, du conditionnement...
De l'enfant, ouais. Ouais.
Ou là, de la mère, bien. Là, en l'occurrence.
Ouais, ouais, bien sûr, ouais. L'enfant est l'ordinateur biologique idéal.
Alors un autre extrait qui me paraît intéressant, c'est que en fait un des thèmes qui est vraiment qui structure, on va dire, le livre, c'est aussi la question de l'information libre. Dans la mesure où alors d'une part, ce qui est intéressant, c'est que on est dans le contexte d'une découverte scientifique. Enfin, c'est vraiment ce que Ursula Le Guin en tant que va essayer. Mais en fait, la plupart des, disons, notamment la science-fiction des années 50, était justement plus dans une logique de déterminisme technique, en essayant de voir, bon, voilà, on a telle technologie qui s'est développée, quelles vont être les conséquences.
Ouais.
Et là, en fait, c'est pas vraiment l'objet du sujet. C'est plutôt, alors, comment se fait la genèse d'une technologie, d'une technique, comment elle va mettre en branle des phénomènes de coopération entre des, et aussi de l'échange entre des sociétés.
Il y a des échanges entre les deux planètes alors mis à part,
voilà, les deux planètes sont grosso modo en conflit et refusent de mais par contre de communiquer, voilà, d'échanger.
Ouais, elles refusent de communiquer,
mais il y a
ouais.
quand même donc il y a quand même au début du de l'ouvrage, donc ça commence dans l'aéroport, le spatioport on va dire, qui est entouré d'un mur. Et c'est un peu le seul endroit qui est interdit d'accès pour les habitants de la planète.
Ouais.
Tout le reste fonctionne sur un mode, en fait.
Sur les deux planètes ou.
Ah non, parce que l'autre planète, donc la planète capitaliste, fonctionne au contraire avec un système où le système qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Ouais,
tout est approprié.
Si on veut aller se balader sur une planète, on y va, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Alors que sur la planète anarchiste, c'est comme une inclusion. Ouais.
Mm-hmm.
Et pourquoi ça alors ? Il y a une raison ou dans la logique anarchiste de mettre un mur
On sait pas trop. Ouais. C'est vrai que alors peut-être que c'est pour protéger l'intrusion
une contamination quoi.
Voilà,
c'est
d'une contamination.
Un sas de quarantaine quoi.
Tout à fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, donc Ursula Le Guin va se poser la question au protagoniste.
Ouais.
Mais on se retrouve vraiment dans une discussion pour avoir des étudiants sur un campus qui parleraient de politique quoi.
Ouais.
Voilà, donc elle se met vraiment, elle se plonge et avec un réalisme qui est à mon avis un peu unique, tant dans la science-fiction peut-être dans la littérature fantastique ou contemporaine, avec un réalisme qui fait que vraiment elle arrive à se projeter à faire projeter ses étudiants dans ce contexte-là quoi.
Super.
Voilà. Ouais. Donc pour revenir rapidement, alors pourquoi aussi c'est intéressant du point de vue d'une part il y a le fait que c'est cette technique qui va se développer est finalement une technique relative à l'information. Donc c'est
l'information instantanée quoi, c'est un truc quantique là, non, que
voilà.
C'est comment elle décrit l'invention, alors est-ce que ça paraît probable?
Alors là,
est-ce qu'il y a une cosmogonie derrière ça?
Je pense que ça rejoint un peu toute la, justement la SF de la Nouvelle Vague, à savoir que bien souvent ils laissaient tomber un peu tout l'aspect réalisme du point de vue de la science-fiction.
Ouais.
Alors ce qui tranche pas vraiment avec la science-fiction des années 50, mais par contre ce qui tranche un peu avec des courants des plus récents là, des années 90-2000, où la science-fiction là tente d'avoir de développer des approches très réalistes quoi. À partir des connaissances scientifiques qu'on a à l'heure actuelle. Bon, mais ça c'est un autre sujet.
Elle écrit toujours
Alors je crois qu'elle est morte.
Elle est morte, ouais.
Récemment d'ailleurs. Mais elle a écrit, disons que vraiment le
c'est des dépossédés
vraiment. Moi je conseille les dépossédés à 100%. Et un autre livre qui est excellent, c'est La main gauche de la nuit. Et Le nom du monde des forêts, voilà. Ça fait partie de son cycle, d'un cycle qui est plutôt branché science-fiction, en sachant qu'elle a fait un autre cycle plutôt fantasy pour les amateurs ou les amatrices.
Ouais.
Alors je vous lis quand même un dernier extrait parce que je le trouve quand même assez fabuleux. Hein.
Ouais, il reste 2 minutes. Ça
allez, c'est parti,
notre...
je pense qu'on va terminer là-dessus. Voyez-vous, dit-il, ce que nous voulons, c'est nous rappeler à nous-mêmes que nous ne sommes pas venus sur Anarès pour la sécurité, mais pour la liberté. Si nous devons tous être d'accord, tous travailler ensemble, nous ne valons pas mieux qu'une machine. Si un individu ne peut pas travailler solidairement avec ses compagnons, c'est son devoir de travailler seul. Son devoir et son droit. Mais nous avons dénié ce droit aux gens. Nous avons dit de plus en plus souvent, vous devez travailler avec les autres, vous devez accepter la loi de la majorité. Mais toute loi est une tyrannie. Le devoir de l'individu est de n'accepter aucune loi. D'être le créateur de ses propres actes, d'être responsable. Ce n'est que s'il agit ainsi que la société pourra vivre, changer, s'adapter et survivre. Nous ne sommes pas les sujets d'un État fondé sur la loi, mais les membres d'une société fondée sur la révolution. La révolution est notre obligation, notre espoir d'évolution. La révolution est dans l'esprit de l'individu ou bien elle n'est nulle part. Elle doit être pour tous ou elle n'est rien. Si on la considère comme ayant une fin, elle ne commencera jamais réellement. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant, nous devons continuer, nous devons prendre des risques. Bon, voilà.
Excellent, ouais, ouais, excellent, ouais. Ah ouais, bah, c'était une très bonne conclusion. Eh ben, Benjamin, on se retrouvera donc au mois d'août, alors.
Eh ben, ça marche. Pour la prochaine émission. Allez, olé. Sortez sans payer aussi.